Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Emmanuel Macron a bien bénéficié de tarifs préférentiels de la part de plusieurs entreprises lors de sa campagne présidentielle. Nous vous le révélons ce matin sur France Culture, alors que la commission des comptes de campagne doit communiquer à ce propos ce matin.
Lutter contre les fausses informations, mais éviter l'information d'État, lourde responsabilité qu'ont les députés aujourd'hui. Ils débattent d'un projet de loi en ce sens à l'Assemblée nationale. Vous les entendrez.
Nous nous pencherons aussi sur la surmortalité des abeilles victimes de pesticides. Les apiculteurs manifestent aujourd'hui en France.
Et puis, dans cette édition encore, nous irons en Chine où le premier réacteur EPR d'EDF fonctionne. Tout arrive, c'est une première mondiale, alors que le chantier de Flamanville prend toujours du retard.
Le multilatéralisme et le libre-échange d'Emmanuel Macron et Justin Trudeau face au nationalisme économique de Donald Trump. Le G7 au Québec se prépare, première prise de parole à suivre. Et puis pourquoi les anciens présidents redeviennent-ils populaires? Question posée par Frédéric Seyss dans son billet politique après ce journal, sa réponse aussi peut-être. La Commission nationale des comptes de campagne a prévu une conférence de presse à 10h30 tout à l'heure. Communication imposée par les nombreuses interrogations autour des comptes de campagne du candidat Macron. L'année dernière, son équipe a étrangement bénéficié de salles à prix cassé, de matériel offert, de logiciels en promotion. Alors on savait déjà, grâce à Mediapart, que le géant de l'événementiel GL Events avait accordé des remises généreuses à l'actuel président de la République. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Clara.
Vous faites partie de la cellule investigation de Radio France et avec Élodie Guéguin, vous avez découvert en épluchant les comptes du candidat Macron que cette société est loin d'être la seule à avoir fait des ristournes.
Non, oui. Prenez par exemple l'entreprise Eurydice, un pilier de la campagne Macron qui a assuré la technique sur de nombreux meetings. Selon nos calculs, cette entreprise a accordé jusqu'à 26% de remise sur certaines factures et en tout, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ont été économisés par le candidat. Autre exemple, Nation Builder, c'est un logiciel indispensable aujourd'hui pour les campagnes électorales. Nous avons découvert que cette société américaine a consenti, elle, un rabais de 30%. Et puis, il y a des salles qui ont été louées à tout petit prix parfois, comme le théâtre Bobino à Paris, 3000 euros la soirée. Quand nous avons voulu obtenir un devis pour un événement comparable, on nous l'a proposé 10 000 euros plus cher. Son propriétaire, Jean-Marc Dumonté, est un soutien affiché d'Emmanuel Macron, mais il conteste lui avoir fait un prix d'ami, tout comme au théâtre Antoine d'ailleurs, une autre de ces salles louées là aussi, 3 000 euros un mois plus tard.
Mais Sylvain, pourquoi ces entreprises ne pouvaient-elles pas pratiquer les tarifs qu'elles voulaient ?
Eh bien parce que les entreprises n'ont pas le droit de faire des dons aux partis politiques ou aux candidats. Et la commission des comptes de campagne considère qu'une ristourne, lorsqu'elle est trop importante, eh bien c'est un don déguisé en quelque sorte. Le problème, c'est que toutes ces ristournes dont nous venons de parler, elles n'ont pas attiré l'attention de la commission. Nous l'avons contactée. Elle explique qu'elle a validé le compte Macron, qu'elle ne peut plus rouvrir le dossier. Quant à l'Élysée, il se refuse à tout commentaire et renvoie vers la commission.
La commission qui tiendra donc une conférence de presse ce matin. Merci Sylvain. Sylvain Tronchet de la cellule investigation de Radio France. Les petits arrangements de la campagne d'Emmanuel Macron, c'est une enquête complète, documents à l'appui, avec des factures notamment, à retrouver sur notre site franceculture.fr. Réaction déjà ce matin du député vice-président du Rassemblement National, Louis Alliot. Il y a eu selon lui une rupture de l'égalité entre candidats l'année dernière. L'équipe Macron qui tangue en ce moment. Hier après-midi, une perquisition a eu lieu au ministère de l'Économie suite d'une enquête sur le bras droit d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler. Le secrétaire général de l'Élysée est visé par une plainte de l'association de lutte contre la corruption Anticor, plainte pour prise illégale d'intérêts et trafic d'influence. Anticor dénonce notamment les liens familiaux d'Alexis Kohler avec le transporteur MSC, un important client des chantiers navals de Saint-Nazaire. Et Alexis Kohler avait pourtant siégé au conseil d'administration de STX en tant que représentant de Bercy. Comment définir une fausse nouvelle tout en préservant la liberté d'informer? Une double proposition de loi sur la lutte contre la manipulation de l'information. Cette double proposition est débattue ce matin à l'Assemblée nationale. L'enjeu est de taille puisque les fausses nouvelles se propagent 6 fois plus vite que les informations vérifiées. La loi, si elle est votée, ne s'appliquera que pendant 3 mois, 3 mois précédant une élection nationale. Un candidat pourra par exemple saisir la justice et faire retirer un article si le journaliste est jugé de mauvaise foi. Et cela fait débat, Anne Fauquemberg.
La notion de fausse information a beau avoir été strictement définie en commission pour que le juge ne puisse être saisi que pour des informations diffusées en masse et artificiellement. Quasiment toute l'opposition est contre cette procédure qui viendrait instaurer l'idée d'une vérité officielle. Les syndicats de journalistes y voient aussi un affaiblissement pour la profession, comme l'explique Dominique Pradalier, la secrétaire générale de l'organisation SNJ.
Je trouve que c'est une épée de Damoclès qui empêche de travailler sérieusement côté journaliste. Pour le côté citoyen, les citoyens ont le droit de savoir quelque chose à quoi ils peuvent se référer et non pas de voir disparaître complètement le travail des journalistes en période électorale.
C'est donc avec humilité que l'une des rapporteurs du texte, la députée LAREM Naïma Moutchou, aborde les débats. Pour cette avocate spécialiste du droit de la presse, il s'agit surtout d'un outil supplémentaire incontournable pour préserver la démocratie.
Habituellement, c'est plus simple quand on légifère. On sait sur quoi on va légiférer, c'est presque matériel. Là, Internet, c'est la porte ouverte à tout. Donc, on essaie d'être prudent parce que la liberté d'expression est vraiment la ligne rouge ici, donc on avance à tâtons. C'est vraiment un premier instrument et puis ensuite on évoluera en fonction des évolutions d'Internet.
Un premier outil qui questionne à l'image de ces 200 amendements déposés dont 25% concernent ce fameux article 1 qui instaure donc cette nouvelle procédure en référé. C'est pourquoi les députés ont aussi gonflé en commission le volet concernant l'éducation aux médias avec au collège une formation à l'analyse critique de l'information disponible obligatoire.
Et après les fausses informations, les députés discuteront dans l'hémicycle téléphone portable et rodéo aujourd'hui à travers deux propositions de loi. La première interdit l'usage du portable en primaire et au collège et notamment dans les cours de récréation. La seconde vise à lutter contre les rodéos motorisés sur les parkings ou les routes. Elle crée un délit passible d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. Voilà un écho à la proposition de Benoît Hamon, le revenu universel lors de la campagne présidentielle l'an dernier. Une possible solution aussi à la crainte d'une baisse des aides sociales en France. 13 présidents de départements veulent expérimenter le revenu de base, de l'Ardèche à la Nièvre en passant par la Seine-Saint-Denis. Avec une différence de taille toutefois, il serait ce revenu sous condition de ressources. Présentation de l'initiateur de cette proposition, le président du département de la Gironde, Jean-Luc Glaise.
Alors, le revenu universel, par définition, comme il est universel, il est versé à tout le monde. Pour nous, pour ce qui nous concerne, nous faisons le choix de la dégressivité. Ça veut dire qu'au-delà d'un certain montant de revenus, le revenu de base n'est pas versé. Donc ce n'est pas du tout la même approche qu'un revenu qui serait versé à tout le monde. Nous estimons, nous, qu'il doit être concentré sur les gens, évidemment, en très grande précarité, mais qu'il bénéficie aussi, par exemple, à des travailleurs pauvres ou à des gens qui ont du mal à tirer un revenu de leur activité. Nous avons des personnes, je pense à des mamans qui arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants handicapés. Comme c'est une décision qui leur appartient que cet arrêt de travail, de fait, elles n'ont pas d'allocation chômage, elles n'ont pas non plus de prime de licenciement. Donc elles se trouvent aussi en difficulté. Donc c'est ce type de situation que nous souhaiterions aider. Et de fait, il y a dégressivité, donc ça n'est pas un revenu universel, puisque les gens qui ont un revenu satisfaisant n'ont pas à bénéficier effectivement d'un complément d'allocation.
Le président du département de la Gironde, Jean-Luc Glaise, avec Benjamin Delisle, les élus vont soumettre une proposition de loi au gouvernement pour un test, espère-t-il, à l'automne prochain sur 20 000 personnes. Le PDG de Lactalis sommé de s'expliquer sur l'affaire du lait infantile contaminé aux salmonelles. Emmanuel Beignet va être auditionné ce matin par les députés, ceux qui font partie de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur ce scandale. Elles meurent par millions en France, intoxiquées par les pesticides, et eux tentent de se faire entendre. Pour sauver leurs abeilles, les apiculteurs seront nombreux à se mobiliser un peu partout en France aujourd'hui. Une dizaine de rassemblements sont prévus, notamment à Paris, des Invalides jusqu'à l'Élysée. 2018 est déjà une année record en termes de mortalité des abeilles. Les pertes à la sortie de l'hiver s'élèvent à 60%, voire 90% chez certains. Alors l'Union européenne a bien restreint il y a peu l'utilisation de 3 néonicotinoïdes. Un amendement en France a étendu l'interdiction dans le pays. Bonjour Véronique Roberotte.
Bonjour.
Spécialiste environnement de la rédaction. Les apiculteurs regrettent tout de même, Véronique, la lenteur des processus et la vigilance permanente dont ils doivent faire preuve.
Quel agriculteur, quel éleveur en tout cas accepterait comme une fatalité de perdre 40, 60, voire 90% comme cette année de son cheptel? C'est ce qui arrive désormais, donc chaque année quand même, aux apiculteurs français. Et si le grand public a depuis longtemps temps bien fait le lien entre pesticides, surmortalité de ces abeilles, eh bien l'État, les gouvernements n'ont toujours pas apporté de réponse à ce qui est un désastre, tant économique qu'écologique. Les tueurs en série des abeilles, vous l'avez dit, ce sont les néonicotinoïdes. Avant leur mise sur le marché, dans les années 90, les ruches enregistraient une mortalité à la sortie de l'hiver de 3 à 5%. Henri Leclerc est le secrétaire général de l'UNAF, l'Union nationale de l'apiculture française.
Ça fait depuis 1995-96 qu'on se bat contre ces molécules. Il a fallu attendre 2002-2003 en France pour qu'un rapport scientifique reconnaisse la toxicité. Il a fallu attendre 2013 pour que l'agence européenne se rende compte que ces molécules avaient été homologuées à la légère et qu'il y avait beaucoup de failles. Et 2014 pour que les premiers retraits de ces molécules soient faits au niveau européen. Pourtant, nous avions raison depuis le début. C'est là où les apiculteurs et les abeilles sont des lanceurs d'alerte. Et aujourd'hui, on se réjouit de la position de l'Europe qui vient d'étendre cette interdiction des néonicotinoïdes, en tout cas de trois néonicotinoïdes en plein champ. Donc ils les ont cantonnés uniquement sous serre. Ça prouve quand même la toxicité grave de ces molécules. Notre cher ministre de l'Agriculture, il a fallu qu'il se fasse recadrer quand il est arrivé ministre, envisager de revoir l'interdiction qu'avait obtenue Ségolène Royal au Parlement. Il y a tellement d'enjeux financiers derrière que le pouvoir économique passe sur la responsabilité d'homme d'État.
Voilà, le discours, on le connaît. Les apiculteurs, en tout cas à Paris, marcheront tout à l'heure jusqu'à l'Élysée. Ils vont demander directement à Emmanuel Macron de tout faire pour restaurer un environnement viable pour les abeilles, de ne plus remettre toujours à plus tard l'interdiction de ces molécules tueuses, exterminatrices d'abeilles.
Merci Véronique Rebérotte. Pourquoi les abeilles sont-elles indispensables? La réponse argumentée de scientifiques se trouve sur franceculture.fr.
8h11 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Le premier réacteur EPR au monde d'EDF a démarré.
Oui, en Chine, dans le sud, à Taishan. Un autre doit être mis en service en Chine toujours l'année prochaine. Plusieurs EPR sont aussi en construction en Finlande, au Royaume-Uni, en France, à Flamanville, dans la Manche. Celui-là prend du retard. Cela fonctionne donc a priori en Chine, une première mondiale symbolique issue de la technologie française, Dominique André.
C'est finalement la ville de Taishan, dans le sud de la Chine, qui devient la vitrine de l'EPR, fleuron de la technologie française. Le réacteur nucléaire a démarré, une étape clé avant d'être raccordé au réseau électrique pour une mise en service commerciale prévue à l'automne. La Chine est actionnaire à hauteur de 70% dans la co-entreprise avec le français EDF pour ce Taishan 1, premier exemplaire du réacteur nucléaire dit de troisième génération. Un Taishan 2 devrait être inauguré en 2019. À l'heure où le gouvernement chinois repense son mix énergétique pour lutter contre la pollution, le nucléaire a de beaux jours devant lui en Chine. Mais la concurrence est forte pour les Français face au réacteur AP1000 de l'américain Westinghouse et peut-être encore plus face à la Chine qui construit en ce moment son propre réacteur de troisième génération, le Huailong 1.
Dominique André depuis Pékin pour France Culture. Ils vont faire front commun contre Donald Trump à 48 heures du G7 qui doit se tenir au Québec. Le président français est en visite officielle au Canada. Emmanuel Macron et le Premier ministre Justin Trudeau ont affiché hier leur détermination dans la guerre commerciale qui les oppose aux États-Unis. Guerre commerciale née, je vous le rappelle, de la mise en œuvre par Washington de taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. Et voilà donc le Français et le Canadien plus proches que jamais, Isabelle Labéry.
Sur les marches du Parlement, ils se donnent l'accolade comme deux copains qui se retrouvent. Face aux caméras, le sourire est radieux, le tutoiement spontané.
C'est ta première visite en tant que président, certainement, mais c'est pas ta première visite au Canada.
Justin Trudeau est heureux de pouvoir jaser avec son homologue, comme on dit en bon québécois.
On est de grands amis, de grands partenaires sur la scène internationale.
Les deux quadragénaires, partisans du libre-échange, affichent une conviction commune. Le commerce mondial ne peut pas se construire sur des mesures protectionnistes. Aucun des deux ne cite Donald Trump, mais c'est bien le président américain qui est visé.
Évidemment, la préparation de ce G7 qui intervient à un moment critique, mais qui est aussi une occasion d'avoir sur des sujets essentiels pour ce qui nous concerne une vraie convergence.
Emmanuel Macron et Justin Trudeau ont fait le tour de leurs partenaires. Ils se savent solidement soutenus sur le commerce, le nucléaire iranien ou l'accord de Paris sur le climat. Pas question de céder aux exigences des Américains. Les discussions sur les bords du fleuve Saint-Laurent demain seront difficiles. Le G7 risque surtout de se transformer en 6 plus 1, tous contre Trump.
Isabelle Labéry, l'envoyée spéciale de Radio France à Ottawa. L'Espagne a un nouveau gouvernement. Le socialiste Pedro Sanchez a présenté hier son équipe. 11 femmes pour 6 hommes. C'est inédit dans l'histoire du pays. Ce gouvernement est aussi pro-européen et minoritaire à l'Assemblée en Espagne. Il ne pourra diriger qu'avec le soutien des nationalistes basques, des indépendantistes catalans et de Podemos, le parti de la gauche radicale. Et puis en bref, encore des milliers de Chiliennes ont manifesté hier dans plusieurs villes du pays. Elle réclame davantage d'égalité et une éducation moins sexiste. De légères pluies sur le quart nord-ouest du pays ce matin et sur la façade est, avant le retour des orages entre l'Alsace, le Nord-Pas-de-Calais et près de la Méditerranée. Les températures, elles sont un petit peu plus fraîches ce matin, 15 degrés à Brest, comptez 19 à Bordeaux, Lille, Besançon, 20 à Paris et Châteauroux, 21 degrés à Lyon et Perpignan, 22 à Marseille.